Géopolitique,
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique, une émission réalisée aujourd'hui en partenariat avec la revue internationale et stratégique parue aux éditions Armand Collin et Iris. Retour des coups d'État militaires, transition qui s'éternise, tentation du troisième mandat, petits arrangements avec les constitutions, essor du terrorisme islamiste, partenariat de plus en plus étroit avec des régimes autoritaires, Chine, Russie, Turquie. La démocratie à l'occidentale, entre guillemets, est-elle vouée à disparaître sur le continent africain? Cela signifie-t-il que l'heure d'une véritable émancipation des anciennes puissances coloniales a sonné? L'Afrique est-elle en quête d'un contre-modèle? Et dans ce contexte, quelle politique africaine pour la France, forcée de quitter le Mali mais pas forcément le Sahel? Autant de questions que l'on retrouve en filigrane du dossier de la démocratie en Afrique, qui est à la une du dernier numéro de la revue internationale et stratégique, un dossier coordonné par Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS. Paul Simon Andy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et directeur du bureau Afrique de l'Est de l'ISS, Institute for Security Studies, basé en Afrique du Sud. Eladj Souleymane Gassama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, docteur en sociologie, chercheur associé au CEREV, le centre de recherche risque et vulnérabilité de l'université de Caen. Vous travaillez entre autres sur la diaspora et la démocratie en Afrique. Vous avez publié sous votre nom d'auteur, Elgas, un roman, Mal Noir, Mal Emma, accent circonflexe LE, paru en 2021 aux éditions Ovadia. Antoine Glaser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste essayiste. Votre dernier livre, Le piège africain de Macron, coécrit avec Pascal Hérault, est paru en 2021 chez Fayard. Paul Simon Andy, ma première question est pour vous. Est-ce que cette série de coups d'État intervenus depuis 2 ans au Mali, en Guinée, au Soudan, au Burkina Faso, sans compter le putsch manqué de février en Guinée-Bissau, traduit l'échec de la démocratie en Afrique ?
Non, pas du tout. Non, je pense qu'il faut se garder, lorsqu'on étudie le processus de démocratisation, de faire des généralisations basées sur une photographie du moment. Que ce soit une stagnation, qu'on ait des raisons d'être alarmiste, oui, mais vu sur le temps long, je pense tout simplement que ce sont des stagnations, peut-être des reflux, mais dans tous les cas, ça entre bien dans le processus de démocratisation qui n'est pas linéaire et qui s'inscrit lui-même dans le processus de construction des États, les États africains étant jeunes. Ils n'ont que 60 ans. 60 ans dans le temps long de l'histoire, ce n'est pas énorme, c'est une fraction de seconde, littéralement. Donc, oui, il y a des raisons de s'alarmer parce que ça fait perdre du temps à ces sociétés qui ont une jeunesse qui en demande beaucoup. Mais sur le temps long, je pense que ce sont, comme je disais, des épisodes qui entrent dans un processus qui lui-même est long. Je suis beaucoup moins alarmiste que plusieurs commentateurs et observateurs.
Alors Elgas, vous écrivez que le putsch au Burkina Faso, si on prend l'exemple du Burkina, semble emblématique d'un tournant majeur, l'essoufflement des démocraties dans le rapport délicat des peuples avec leur pouvoir. Qu'entendez-vous par là? Les processus démocratiques sont restés l'affaire d'une élite, les principaux concernés, les peuples se sont sentis spoliés, c'est ça qui se passe en ce moment?
Alors, ça, c'est une partie de l'observation que l'on pourrait faire. Mais je m'aligne d'abord sur la réponse précédente qui a été donnée par le co-débatteur. C'est que même si la situation n'est pas particulièrement réjouissante, il n'y a pas lieu de tomber dans un catastrophisme très, très chaotique. Ce que je voulais montrer avec l'exemple burkinabé, c'est qu'on avait là peut-être à la fois le tableau général, toutes les nuances en fait, des séquences qu'on a eues récemment. On a eu une révolution au Burkina Faso qui a été saluée, qui a porté Kaboré au pouvoir, qui a été portée par les jeunes. Et on a vu là les germes d'une démocratie populaire un peu plus ancrée, un peu plus incarnée, un peu plus inclusive. Et d'un seul coup, on a vu justement ce coup d'État arriver dans un pays qui était déjà soumis au péril djihadiste. Et donc, on a comme ça l'agglomération de tous les petits problèmes qu'il y a dans le Sahel et qui venaient justement entraver le processus démocratique dont on parlait dans ce pays-là. Donc c'est pourquoi j'ai parlé d'emblème, parce qu'on a là finalement la miniature de ce qu'on voit dans le continent, c'est-à-dire des processus qui suscitent un véritable engouement, hein, et encore une fois, je le répète, chez les jeunes populations. mais sabrer parfois au sommet des attentes, des espoirs. Et donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'essoufflement. Et l'essoufflement, c'est qu'on a sur le tableau du Sahel, que je connais un peu mieux, toujours ça, des ancrages, des moments d'euphorie, des moments de grands espoirs. Et d'un seul coup, on semble régresser de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un apprentissage démocratique. Même si les États africains, là, je me permets juste de corriger parce qu'on parle très souvent de 60 ans. Non, l'histoire précoloniale africaine, l'histoire d'États africains, même s'ils ont pu être déstructurés, est une histoire qui est beaucoup plus longue. L'État ne vient pas uniquement importer, comme dirait Badi. L'État a une histoire très, très longue et je pense que quand on appréhende justement cette totalité, il faut aller dans cette chronologie qui est beaucoup plus ancienne.
On va y revenir. Antoine Glaser, on va rester sur le cas du Burkina Faso déstabilisé par les attaques djihadistes. On va rappeler quelques chiffres, hein, 2000 morts, 2 millions de déplacés, des centaines d'écoles fermées. Pourquoi le président Rochmark Christian Kabore, démocratiquement élu, après la chute de Blaise Compaoré chassé par la rue, n'a-t-il pas réussi à empêcher le pays de sombrer?
Ah, parce que d'abord, il faut quand même expliquer que la démocratie, il y a quand même deux formes de démocratie. Il y a la démocratie institutionnelle, la démocratie de tous les processus électoraux, qui est quand même une démocratie qui a été importée, hein, en particulier de toutes les constitutions françaises que les chefs d'État ont appris à instrumentaliser pour se maintenir au pouvoir. Et vous avez la vraie démocratie, ça veut dire les contre-pouvoirs, une presse libre et des débats dans les pays. Et donc, je pense que de parler toujours de démocratie dans des pays où il n'y a pas encore eu réellement de débat démocratique, de contre-pouvoir, encore une fois, quand vous avez autant d'inégalités sociales dans un pays comme le Burkina Faso, je veux dire, les processus électoraux, on l'a vu au Mali, avec l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta et un pays qui est parti totalement ensuite à volo, on voit bien qu'il y a vraiment un problème entre ces processus électoraux, ces processus démocratiques et le problème majeur qui sont les inégalités sociales. Il y a des gens qui votent, ils ne savent pas exactement pour qui, comment, sur une base totalement clanique. Et donc, le Burkina Faso, Roch Christian Kabore, il n'a pas vraiment changé le fond des problèmes démocratiques de son pays. Je pense qu'il s'est assis au pouvoir en poursuivant un système qui était quand même ancien.
Paul Simon en dit, ces coups d'État militaires à répétition ont été, à l'exception du Soudan, approuvés par les populations. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous l'expliquez? C'est par lassitude des pouvoirs en place? Ou est-ce que les populations pensent qu'un régime fort, que la manière forte, la manière militaire, peut rétablir l'ordre, la sécurité, la justice sociale?
Les études de Afrobaromètre, de International Idea, qui observent justement les attitudes et les processus démocratiques en Afrique, nous suggèrent autre chose. Ce que Afrobaromètre nous dit, par exemple, c'est que les populations africaines demandent plus de démocratie qu'elles n'en reçoivent. En clair, la demande reste très élevée, elle reste plus élevée que l'offre née. Ce qui pointe justement dans la direction d'une sorte de capture de la démocratie par les élites, comme on a pu le voir dans des pays comme le Mali et dans une certaine mesure aussi en Guinée. Alors, mais pour revenir à ce que vous considérez être l'approbation des populations vis-à-vis des coups d'État qui ont eu lieu, je ne sais pas s'il s'agit d'une approbation. Chaque coup d'État est souvent accompagné d'une certaine euphorie, mais l'euphorie, à mon avis, et d'ailleurs l'histoire des coups d'État nous le démontre, l'euphorie est plus liée à la lassitude de l'ancien gouvernement que par une vraie adhésion à un programme des putschistes. D'ailleurs, on voit que quelques mois après s'être installé, les putschistes font face à une désillusion de la population et une revendication de plus de liberté, de démocratie. Donc, je pense que ce qu'on voit dans les pays d'Afrique de l'Ouest où il y a eu des coups d'État récemment, C'est juste une lune de miel qui va s'achever, comme on le voit déjà en Guinée d'ailleurs. Au Mali, elle se prolonge un peu compte tenu d'un discours anticolonial que les nouvelles autorités savent manier et qui a une certaine popularité auprès des populations urbaines. Là, il faut souvent faire une différence entre les populations urbaines, celles qu'on peut voir dans les images des télévisions, mais on ne se pose pas souvent la question de savoir ce que pensent les populations rurales. Et souvent, elles sont moins euphoriques ou de moins péremptoire que ce que les populations urbaines disent. Donc là, de ce côté, moi, je m'en tiens toujours à ce que les données nous révèlent. Je ne pense pas qu'il y a une nouvelle euphorie des populations africaines pour des dirigeants en treillis. N'oubliez pas que nous avons passé des décennies sous des dictatures militaires qui ont échoué, à l'exception peut-être de quelques pays comme peut-être Jerry Rawlings au Ghana. Les militaires ont échoué. Donc, je sais que les populations africaines sont jeunes, beaucoup ont moins de 30 ans, n'ont pas vécu ces périodes de dictature militaire, mais ce n'est certainement pas le nouvel horizon, la nouvelle eschatologie politique pour les Africains.
Elgas, à chaque fois qu'un coup d'État se produit, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO réclament aussitôt le retour à un processus démocratique et l'organisation d'élections. Est-ce que c'est une erreur de penser que élection égale démocratie ?
Oh oui, je pense d'ailleurs qu'Antoine Glaser y a partiellement répondu en faisant justement la distinction entre la démocratie institutionnelle, qui est très souvent une forme d'injonction qui suit une chronologie et une histoire, et la démocratie réelle éprouvée par les populations avec les contre-pouvoirs, et puis même dans des sphères associatives, dans des entités, on va dire, qui ne sont pas forcément directement politiques. Donc c'est quelque chose d'important de faire cette distinction-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la tentation d'assimiler toute forme d'injonction à quelque chose de l'ordre d'une coloration, on va dire, coloniale. Et c'est pourquoi ça irrite, ça crée des réactions, parfois ça braque les populations. Et si on voit toujours des instances internationales comme l'ONU donner des directives, essayer d'appeler parfois au respect de processus qui sont eux-mêmes bafoués ou exsangues, ça peut susciter une plus grande défiance et une plus grande méfiance. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur dans l'absolu, parce que justement, l'aspiration démocratique, elle est là. Et puis, moi aussi, je suis d'accord avec cette fausse popularité des hommes en treillis. On le montre très, très rapidement. Il y a souvent des liesses, mais des liesses qui s'essoufflent très, très vite. Donc, il y a chez les jeunes populations, chez les élites, partout, une aspiration démocratique qui n'arrive pas à être incarnée, qui n'arrive pas à être organisée. Et toute cette énergie-là se dissipe dans des formes de réactions qui peuvent être parfois violentes. Et il faut toujours avoir cela en tête quand on parle de démocratie. Il y a un grand éléphant dans la pièce, c'est ce passif colonial-là qui n'apaise pas les relations, et on n'arrive pas justement à encore penser la démocratie comme un bien qui peut être parfaitement endogène. On le rattache toujours à cette idée d'importation, et cette idée d'importation, c'est l'idée aussi d'une grève qui ne peut pas prendre. Et tant qu'on n'aura pas mis sur la table un chantier important de réinvention, de réécriture, d'imagination, sans forcément s'en référer toujours au passé et à la violence de ce qu'on a subi, ben on restera sur ce genre de configuration qui appelle des discussions dans 10 ans, dans 30 ans sur les mêmes sujets.
Pour vous, l'erreur originale, on peut la faire remonter au moment des indépendances, quand les ex-puissances coloniales ont voulu importer, hein, vous le disiez, en Afrique, ce système démocratique qui ne correspondait pas aux réalités endogènes africaines.
Alors, ce n'est pas justement un système démocratique, moi je parlais plutôt d'État. Je fais la distinction entre l'État et le système démocratique. C'est-à-dire, on a une démocratie institutionnelle qui est attachée à l'État, à des structures de délibération. Oui, il faut toujours, quand on regarde l'histoire longue, et moi je plaide pour qu'on regarde cela, regardez comment étaient constitués les États africains. Est-ce qu'il y avait des processus de délibération ? Est-ce qu'il y avait une verticalité ? Est-ce qu'il y avait une prime à l'aînesse ? Est-ce qu'il y avait une prime à la gérontocratie ? Est-ce qu'il y avait une organisation sociale ? Que faire des castes et tout ça ? Pour savoir aujourd'hui, tous ces phénomènes qui sont inconscients, qui sont greffés à notre patrimoine historique et culturel, comment ils peuvent parfois inféoder nos rapports avec la démocratie. C'est juste sur ce point-là, mais je ne tombe pas dans l'autre piège qui considère que l'Afrique serait un endogénat hermétique à tout apport extérieur. Donc je pense qu'on le voit actuellement avec l'exemple sénégalais. Quand la démocratie électorale, même si la démocratie sénégalaise elle est essentiellement électorale, elle a beaucoup d'acquis, mais elle est essentiellement électorale, quand on voit ce qu'elle produit aujourd'hui, bah c'est la satisfaction de beaucoup de gens. On voit des processus qui sont salués, des gens qui sont partiellement contents. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une incompatibilité de fait, mais il y a un chantier pour justement faire que cette comptabilité-là soit beaucoup plus efficiente. Et il me semble que toutes les générations qui se sont succédées dans l'État, je veux dire, pour gouverner de la période des indépendances et après, n'ont pas eu ce souci, justement, de trouver des systèmes adéquats. Parce que tout simplement, ce chantier était très, très compliqué à réaliser et on a préféré parfois le contourner.
Paul Simon, on dit, est-ce que vous êtes d'accord avec Elgas? Est-ce que les standards occidentaux de la démocratie peuvent être partagés par l'ensemble des pays africains? Ou est-ce qu'il y a un problème de correspondance entre les sociétés occidentales et ex-coloniales, enfin issues de l'époque de la colonisation, et les pays africains et les sociétés africaines?
Alors, moi, je regarde surtout les processus endogènes de production du politique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si l'offre démocratique dans les pays correspond aux attentes des populations. La démocratie est un phénomène national à la fin. Hein. C'est, l'élection est un moment national. Et de ce côté, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Il y a 54 Afriques, finalement. Les standards doivent être nationaux. Et quand on regarde ces standards, on voit des pays où il y a des progrès, on voit des pays où il y a des stagnations. Certains, d'ailleurs, où ces stagnations sont accompagnées de tentations dynastiques. C'est souvent des pays dont la trame commune collective est la présence accrue de ressources naturelles. Et puis, il y a des pays où il y a de vrais questionnements en termes de reflux. La zone Afrique du Nord, par exemple, fait, malgré les printemps arabes, on a vu de vrais reprise en main par les militaires, souvent sous couvert de pouvoir civil, du processus politique, de la structure étatique, ce que certains ont appelé la capture d'ailleurs de la démocratie, et l'Afrique centrale. L'Afrique centrale reste quand même un endroit où il y a eu très peu de progrès en termes de démocratisation. Dans ces deux zones, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, restent des zones de reflux, alors qu'ailleurs, on a des processus, certes pas linéaires, mais qui pointent vers plus de progrès. Ces standards, à mon avis, doivent être, les pays africains doivent être évalués à l'aune de leurs propres standards. Et les comparer aux pays, à l'Europe particulièrement, ce serait comparer les oranges et les avocats. Donc, je préfère les comparer entre eux, comparer les pays africains qui ont eu un certain progrès. Et je suis tout à fait d'accord avec la distinction qui est faite entre la dimension électorale de la démocratie et les aspects libéraux de la gouvernance. Et d'ailleurs, souvent, on confond la démocratie avec la gouvernance et l'État. Souvent, les échecs de certains pays sont mis sous le compte de la démocratie alors qu'il s'agit d'échecs de gouvernance. L'un des vrais problèmes, et je crois qu'Antoine Glaser en a parlé tout à l'heure, c'est comment démocratiser des sociétés pauvres assez mal alphabétisées, parce que la démocratie fait quand même appel à une certaine maturité de la population, une capacité de choisir entre des programmes politiques au-delà des personnalités. Lorsqu'on voit les données structurelles sur l'Afrique, l'Afrique reste un continent assez pauvre. Historiquement, on sait que les sociétés se sont souvent démocratisées après avoir atteint un certain niveau de produit intérieur brut. De ce côté, l'Afrique est en train de se démocratiser alors que elle ne suit pas le même exemple que d'autres aires géographiques. La plus récente, c'est l'Asie du Sud-Est. On peut se poser cette question, mais moi, je reviens toujours au fait que le processus de construction des États modernes, hein, westphaliens, dans lequel on s'est engagé au lendemain des indépendances, reste un processus long. Et on ne devrait pas seulement se contenter des photographies du moment.
Paul Simon, Andy, Elgas, Antoine Glaser, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la démocratie en Afrique.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. La démocratie à l'occidentale, entre guillemets, est-elle vouée à disparaître sur le continent africain? L'Afrique est-elle en quête d'un contre-modèle? On continue d'en débattre avec les chercheurs Paul-Simon Andy et Elhadj Souleyman Gassama, dit Elgas, et le journaliste essayiste Antoine Glaser. L'autre tendance que l'on observe depuis quelques années sur le continent et qui s'est accentuée ces derniers mois, ce sont les partenariats étroits noués avec des régimes autoritaires. Chine, Turquie et Russie. La Russie, sévèrement taclée par Emmanuel Macron lors de sa tournée africaine fin juillet, qui a conduit le président français au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau.
La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe.
Antoine Glaser, est-ce que tenir ce genre de propos sur la Russie sur le sol africain était, selon vous, judicieux de la part d'Emmanuel Macron ?
En tout cas, c'est vrai que Emmanuel Macron a surpris par la violence de son propos. On a l'impression qu'il n'était pas en visite dans ces trois pays pour vraiment s'intéresser au développement des pays. Et c'est vrai qu'on a bien vu comment il martelait avec son poing les pupitres, que ce soit ses pupitres aux conférences de presse à Bissau ou ailleurs. Donc je pense qu'il y a un côté aussi qui peut être contre-productif, dans le sens que quand c'est l'ancienne puissance coloniale qui paraît aussi virulente et qu'on n'entend pas de personnalité allemande, espagnole ou italienne, c'est vrai qu'on voit bien que quelque part ça peut être contre-productif, surtout auprès d'une jeunesse africaine qui veut connaître un peu toute cette période post-coloniale et de dire mais pourquoi lui il parle comme ça.
Paul-Simon Andy, Bamako a réagi aux propos d'Emmanuel Macron en exigeant du président français qu'il en finisse avec sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Est-ce que vous partagez l'avis d'Antoine Glaser ? Est-ce que les propos d'Emmanuel Macron peuvent être contre-productifs ?
Pour le coup, je suis beaucoup moins étonné. Le président Macron était dans son rôle. Il ne faut pas oublier que parallèlement, pendant que le président Macron visitait certains pays, il y avait le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, qui faisait une tournée africaine où il tenait des propos au moins aussi virulents envers l'Occident. Donc, je pense qu'il y a, en effet, l'Afrique est redevenue le théâtre d'une rivalité russo-occidentale et visiblement, tous les coups sont permis. De ce côté, je pense que le président Macron était dans son rôle et il fait face à une réalité où la France perd non seulement des parts de marché en Afrique, c'est une vraie bataille diplomatique, économique et politique que se livre là l'Europe avec la Russie.
Paul-Simon Andy, pourquoi 17 pays africains, dont le Sénégal, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, se sont-ils abstenus le 2 mars dernier de voter la résolution de l'ONU qui condamnait l'agression de l'Ukraine par la Russie et demandait à Moscou de retirer immédiatement ses troupes d'Ukraine ?
Ces 17 pays africains, ce n'est pas la moitié des pays africains, c'est beaucoup moins que la moitié, mais il se passe qu'il y a des pays considérés comme importants qui font partie de ce lot-là. Il faut savoir que les votes sont nationaux, les raisons de ce positionnement sont tout aussi nationales. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a la volonté de ne pas se mêler d'un conflit qui les dépasse, comme disent certains diplomates. Il y a que beaucoup de pays africains se réfugient derrière ce qu'ils appellent le non-alignement, qui est un réflexe vieux, hein, c'est un vieux réflexe.
Hérité de la guerre froide ?
hérité de la guerre froide. Et donc, même si maintenant la rivalité russo-occidentale ne se passe plus dans un monde bipolaire, mais plutôt dans un monde multipolaire et aux interdépendances accrues, certains pays, ces 17 pays notamment, ont refusé de se positionner pour... et en cela, ont donné aussi l'impression qu'ils renonçaient d'ailleurs à un principe, à des principes fondamentaux de l'Union africaine, qui sont quand même l'inviolabilité des frontières, qui sont la non-agression de pays indépendants. Donc, le positionnement des pays africains reste complexe par rapport à la guerre en Ukraine, complexe parce qu'il n'apporte aucune réponse aux changements dans l'ordre international qui sont en train de se passer. Est-ce que les pays africains veulent vivre dans un ordre international où les plus forts peuvent attaquer les plus faibles ? Je ne pense pas que ce soit le choix des pays africains.
Elgas, est-ce qu'il y a une fascination en Afrique pour Poutine, l'homme qui tient tête aux Américains, aux Européens, à l'OTAN ?
Oui, je pense qu'on peut le dire. Et ça provient de très loin, parce qu'on a parlé des hommes en treillis plus tôt dans l'émission. Mais n'oublions pas qu'on a eu aussi le mythe du dictateur tropical vertueux que plusieurs personnes ont incarné. Je veux dire, cette structure verticale, virile d'un pouvoir fort, on a souvent profité cette idée comme étant la solution pour les États embryonnaires qui n'avaient pas encore de structure démocratique très, très établie et qu'il y aurait dans cette rigueur dans la gestion de l'État des éléments pouvant être vertueux. Et forcément, quand on voit ce que Macron dit, je veux dire, lors de sa tournée, c'est une inversion accusatoire, c'est un pari, c'est peut-être coûteux en termes d'image, mais il est aussi dans une certaine forme de vérité, parce qu'il le sent aujourd'hui, on est en train de se soumettre à toutes les alternatives qui peuvent être anti-occidentales. Et ce discours-là, c'est un discours qui recrute, c'est un discours qui est très, très populaire. Tous les États, même quand ils amorcent le vertige de leur chute, s'accrochent justement à cette réserve de popularité et de voix. Et Poutine, c'est véritablement celui qui vient donner une certaine forme d'incarnation beaucoup plus réelle à cette alternative. Et quand on le voit à la fois en Centrafrique, au Mali et avec tous les réseaux opaques russes qui peuvent exister, et puis dans la guerre aussi informationnelle et numérique qui est en train d'être menée, oui, on le voit qu'il y a une fascination pour Poutine. Parce que l'image de l'Occident s'est beaucoup abîmée et puis aussi portée par ce discours-là qui ne passe plus auprès de beaucoup de populations. Donc cette fascination, elle est réelle. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à cette fascination, voir ce qu'elle produit ? Parce que cette promesse-là est sans doute l'une des plus terribles aussi pour le continent. Parce que quand on voit les exactions que la présence russe peut exercer dans certains pays africains, on est en droit de se poser des questions très, très légitimes. Mais encore une fois, on est en train de parler d'Occident, on est en train de parler de Russie, mais quelle est la marge de manœuvre des pays africains ? Quelle est la dimension de ce discours souverain ? Quelle est la responsabilité locale ? Quelle est la création d'un discours qui puisse parler aux populations ? C'est parce que sur tous ces sujets-là, sur tous ces chantiers, il y a un échec qui est évident, qu'on en est rendu aujourd'hui à parler justement de ces influences extérieures qui viennent encore une fois piloter nos agendas nationaux. Je pense que là où la parole à la fois intellectuelle et la recherche n'a pas assez creusé sur nos responsabilités internes et personnelles, a laissé une béance et je pense qu'il est urgent en tout cas de la combler.
Paul Simon en dit, est-ce que vous diriez que l'Afrique est en train de s'affranchir de la tutelle, entre guillemets, des anciennes puissances coloniales, quand on voit, on en parlait à l'instant, l'hostilité grandissante par rapport à l'Occident, quand on voit la Centrafrique défendre bec et ongles son recours aux mercenaires de Wagner, ou quand on entend la junte malienne nier la présence sur son sol de ces mêmes mercenaires, est-ce que ça veut dire que l'heure de la revanche a sonné ?
Alors, je pense que les pays africains, dont certains ont pris des armes pour lutter contre la présence coloniale, les pays africains ont souvent eu des postures qui, tout au moins, portent à s'insurger contre un ordre international qu'ils ont toujours estimé être défavorable. Ils ont été indépendants, ils ont accédé à l'indépendance dans un système international qui a recyclé les mots de domination coloniale. Et depuis, c'est vrai, il y a une volonté de plusieurs pays africains de remettre en cause cet ordre colonial. Je pense que au-delà de ce qu'on voit dans certains pays, Mali, RCA et d'autres, il y a aussi d'autres tendances. On voit des pays comme l'Afrique du Sud qui font partie de certains, qui s'arriment à certains clubs, certains groupes comme les BRICS. On voit des pays comme le Nigeria aussi prendre des initiatives particulières. La réalité, c'est que nous vivons dans un monde, dans un ordre international qui ne convainc plus personne, ni d'ailleurs les pays qui ont contribué à l'établir, notamment les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans une phase de reconstruction et il va falloir prendre en compte les intérêts non plus des vainqueurs d'une guerre, comme c'était le cas après la Deuxième Guerre mondiale. C'est toujours plus facile d'établir un ordre post-guerre lorsqu'on l'a gagné, la guerre, mais il est beaucoup plus difficile de négocier entre plusieurs pôles de puissance. Et la multipolarité, aujourd'hui, rend la redéfinition, la reconstruction d'un système international beaucoup plus complexe. Mais au moins, il sera beaucoup plus inclusif parce que plus de puissance, plus d'États auront voix au chapitre. Et la question aussi de la refonte des institutions internationales comme l'ONU, notamment de son Conseil de sécurité, est posée ici.
Mais est-ce que la majorité des pays africains sont prêts à sortir de l'extraversion, c'est-à-dire le fait de solliciter l'aide extérieure pour résoudre les problèmes et de se retrouver par conséquent soumis aux injonctions des donateurs, des bailleurs de fonds, ce qui leur fait perdre une partie de leur pouvoir et de leur souveraineté, Elgas?
Oui, alors, c'est très amusant de regarder le ministère des discours et le ministère des faits. C'est-à-dire, on parle très souvent d'affranchissement, on parle même de revanche, mais quelle est la réalité des liens encore, de la présence occidentale? Mais elle est massive. Elle est massive quand on regarde des pays comme même le Mali, le Sénégal, les pays du Sahel. La présence française y est encore massive. Et donc, il faut toujours regarder quelles sont ces contradictions. Et votre question, d'ailleurs, elle est très intéressante sur cet aspect-là. Parce que la demande toujours d'un appui extérieur, et puis l'absence de souveraineté parfois économique, les performances sur le développement qui restent encore très, très timides, mettent le discours africain à la remorque des décideurs qui peuvent être encore dans l'ordre qu'on pourrait appeler international. Donc, je pense qu'il faut regarder la question dans sa globalité. Et plus on parle d'affranchissement, plus j'ai l'impression qu'on est des deux côtés, d'ailleurs, dans la posture. On est dans la posture parce que ce sont des sujets qui plaisent. On peut avoir des gains très, très faciles en termes de popularité. Mais la réalité des liens, elle est beaucoup plus ancrée. Si on faisait aujourd'hui une extension du domaine d'un terme qui a été très, très honni toute une période, c'est la France-Afrique, on voit que les liens sont de diverses natures, les liens économiques, les liens diplomatiques, des liens sportifs, humanitaires. Et la présence française, si on devait en faire l'inventaire réel dans les pays du Sahel, il serait étonnant d'ailleurs de voir comment justement cet écosystème-là continue à perdurer et surtout à se réinventer en termes moins verticaux et beaucoup plus horizontaux. Et je pense que c'est là qu'il faut essayer de sortir du piège de l'actualité et du discours parfois. Quel est l'écho de ce discours? On l'a dit tout à l'heure en termes de popularité, l'élite urbaine et les zones rurales. Est-ce qu'il y a une continuité comme ça du discours, par exemple, au Mali, entre le discours anti-français que l'on instrumentalise au pouvoir et justement la réalité des populations, parfois, qui sont secourues par des organisations françaises ou internationales ou humanitaires? Je pense qu'il faut affiner le regard sur tous ces aspects-là. Tant que l'Afrique n'aura pas, justement, ces marges de manœuvre, une certaine forme de souveraineté, une certaine forme de crédibilité, une force commune, justement, on commentera toujours les postures, les positionnements et les discours et justement, on laissera en rade la réalité d'une situation économique, politique qui est aussi dégradée qu'on peut l'apercevoir actuellement.
Antoine Glaser, ce qui a changé quand même dans les rapports entre la France et l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, vous l'écrivez, il y a du monde dans la salle d'attente des chefs d'État africains.
Absolument, je dirais Gas aussi vient de montrer à quel point cette évolution est extrêmement importante. Et il faut aussi se mettre... essayer peut-être de reprendre ce que veut faire d'ailleurs Emmanuel Macron sur l'histoire, mais pas simplement l'histoire au Cameroun de la guerre de l'indépendance, mais aussi par exemple de cette période réellement très particulière, encore une fois post-coloniale entre 1960 et la chute du mur de Berlin, avec ce tissu de représentation française, ce système intégré politique, militaire, financier, qu'est-ce qui est devenu, là, à l'époque où la France contrôlait les marchés africains à 50-60%, pourquoi la France s'est un peu réveillée dans une période post-coloniale, comme si elle se croyait toujours chez elle en Afrique, et brusquement, elle s'aperçoit que l'Afrique est totalement mondialisée. Et donc, il y a vraiment un travail, effectivement, d'histoire, de recherche, plutôt que de, comme voulait le faire un peu Emmanuel Macron au cours de son premier mandat, où il voulait un peu passer l'ardoise magique sur toute cette période post-coloniale. Encore une fois, ce n'est pas une question de savoir c'est bien ou c'est mal, c'est simplement une période historique particulière où un certain nombre d'élites africaines avaient été formées en France, avaient été même ministres comme dans des gouvernements français. Donc je veux dire, c'est vraiment une étude, il faut sortir de justement le côté c'est bien ou c'est mal, là on c'est au-delà du bien et du mal, c'est l'histoire, pourquoi cette période a autant marqué ces anciennes colonies françaises.
Paul Simon, on dit, à quoi ressemblerait un contre-modèle à la démocratie occidentale en Afrique, si c'est justifié de parler de contre-modèle ?
Je pense que justement j'ai des problèmes avec le concept d'un contre-modèle, parce que là encore, le contre-modèle nous dit ce que le modèle n'est pas, il ne nous dit pas ce que le modèle est ou devrait être. Je pense que c'est aux populations, aux élites politiques, il leur revient de construire un modèle qui répond aux aspirations, à l'histoire, à l'économie et à la sociologie de chaque pays. Ce travail reste à faire, mais il n'y a rien de particulièrement étonnant dans le fait qu'il puisse prendre plus de temps dans certains pays que dans d'autres. Ce qu'on voit aujourd'hui, et j'aime revenir sur cette statistique, c'est que les populations demandent plus de démocratie qu'elles n'en reçoivent, et que justement la démocratie a été un peu capturée par des élites qui en ont travesti le sens, et poussant dans certains pays d'ailleurs à un certain rejet des formes, de certaines dimensions de la démocratie. On peut se poser la question de savoir est-ce que le parlementarisme à outrance est la bonne réponse aux autoritarismes que les pays africains ont connus avant ? Est-ce que le présidentialisme qu'on voit par exemple émerger dans un pays comme la Tunisie, est-ce que c'est forcément dictatorial ? On peut se poser cette question et apprendre aussi de ce qui s'est passé ailleurs. Donc, les modèles s'inventeront, se referont, il y aura des retouches qui vont être faites, mais ce sera long. Et je pense qu'il ne faut pas être irréaliste au point de penser que ça se fera du jour au lendemain.
Votre avis, Elgas, sur la possibilité d'un contre-modèle ?
Beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs, beaucoup d'intellectuels ont tenu ce discours-là, ont fait des recherches, ont écrit des livres pour expliquer que l'Afrique devait avoir son propre système qui s'inspire à la fois de ses traditions. Et donc, ce n'est pas un sujet qui est neuf, mais justement, est-ce que ça a produit quelque chose ? Est-ce que ça a produit à la fois des États forts ? Qu'est-ce qu'on a fait de cette masse intellectuelle ? Parce qu'on se retrouve dans des contradictions actuellement. Et justement, le grand absent de tous ces processus-là, c'est le peuple. Et là, la cause, elle est multiple. On a parlé tout simplement tout à l'heure d'inégalités économiques, de défauts d'alphabétisation. Voilà, les sujets économiques sont sur la table. On a souvent pensé que la démocratie, il y avait un prérequis, c'est le niveau économique. Alors, on a vu qu'avec la Chine, c'était un contre-exemple, justement, qui montrait qu'on pouvait avoir des progressions économiques sans démocratiser forcément le pays. Mais ce qu'on observe sur le continent, c'est que les peuples sont très absents à la fois des processus démocratiques et qui restent encore, hélas, captives d'élites qui ne sont pas très, très inclusives dans leur dynamique.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Paul Simon Andy, chercheur et directeur du bureau Afrique de l'Est de l'ISS, Institute for Security Studies. Elhadj Souleymane Gassama, dit Elgas, journaliste, écrivain, docteur en sociologie, chercheur associé au CEREF de l'Université de Caen. Et Antoine Glaser, journaliste, essayiste, spécialiste des relations franco-africaines. Merci à Ludivine Amado qui a réalisé cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.